Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous, à la fois les membres de la communauté monastique ainsi que tous les disciples, les fidèles séculiers qui sont venus. Je voudrais remercier également les autorités locales et tous ceux qui ont préparé cet événement et l'ont rendu possible. Le but de cette rencontre, de ces quelques journées que nous allons passer ensemble, c'est de voir si nous ne pouvons pas effectuer une certaine transformation dans notre esprit. C'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Il y a deux manières de transformer notre esprit. L'une est sur la base d'une croyance et d'une pratique religieuse. C'est bien sûr, toutes les grandes traditions spirituelles fournissent des méthodes de transformation de l'esprit. Mais également pour ceux qui n'ont pas de croyance religieuse, eh bien, en utilisant leur intelligence, ils peuvent voir quels sont les avantages qui viennent de transformer notre esprit, d'essayer de devenir un meilleur être humain. Et donc, sur la base de leur réflexion et d'une poursuite sincère de cette transformation, eh bien, il y a certainement là un chemin de transformation qui ne dépend pas nécessairement d'une adhésion à une croyance religieuse. Également, toutes les grandes traditions religieuses offrent des méthodes différentes pour transformer notre esprit. Il y a certainement parmi vous des personnes qui suivent des religions très différentes. Mais parmi toutes ces méthodes de transformation, il y en a qui sont communes indiscutablement à toutes les grandes religions et à toutes les grandes traditions spirituelles. Et donc, ce que je vais pouvoir dire pendant ces quelques jours s'adresse le plus souvent à ce qui est commun à toutes les grandes traditions spirituelles. Et donc, vous pourrez en faire usage pour ce processus de transformation au sein de votre propre tradition. Donc, puisque ici il s'agit d'un enseignement proprement bouddhiste, donc nous allons le précéder par la récitation de certains versets. Il y a trois parties à cette récitation. La première est une louange, un hommage au Bouddha Shakyamuni. Ensuite, il y aura une récitation d'un verset qui vient des sutras, qui dit, abandonnant toute action négative et accomplissant toute action positive, de maîtriser son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. Et puis nous allons des versets afin de dédier les mérites de ce que nous allons faire à tous les êtres. Et aujourd'hui, puisque c'est le premier jour, nous allons également réciter le Sutra du corps, le Prajnaparamita Shridaya, qui est un enseignement essentiel du Mahayana, du grand véhicule, et que l'on trouve aussi bien chez tous les pays où le grand véhicule s'est développé, en Chine, au Japon, en Corée, au Vietnam. Donc maintenant, pendant cette récitation, pour ceux qui sont bouddhistes, donc essayez de développer de la foi et de la confiance dans le Bouddha Shakyamuni. Et également, lorsqu'on récitera le Sutra du corps, de vous rappeler du sens profond de l'interdépendance et de la vacuité. Pour ceux qui ne sont pas bouddhistes, vous pouvez faire venir à l'esprit et engendrer du respect et de la dévotion pour le fondateur de votre religion. Et pour ceux qui n'ont aucune religion, eh bien, vous pouvez avoir l'attitude mentale que vous désirez.
Good job.
Et donc, du fait que le sens profond de la vacuité est trouvé dans la Prajnaparamita, donc nous avons récité ces versets qui viennent de la Prajnaparamita, mais également l'explication plus vaste de ce sens profond est aussi trouvée dans le Sutra Alankara, l'ornement de tous les sutras. Et donc, nous allons également réciter un verset de cet ornement de tous les sutras. Donc maintenant, il va y avoir l'offrande du mandala pour exprimer la requête au maître de donner les enseignements. Quelles que soient les actions que nous entreprenions, ces actions peuvent être motivées de différentes façons. On peut s'engager dans une action avec l'idée de d'apporter du bien autour de nous. On peut s'engager dans une action avec une attitude tout à fait neutre. Et on peut également s'engager dans une action avec l'idée de nuire à autrui. Ici, bien sûr, ce que nous essayons de faire, c'est d'écouter, de pratiquer le dharma. Donc, il est essentiel que ce dharma visant à la transformation de du flot de notre conscience vers un aspect positif, il est essentiel que nous ayons une attitude extrêmement positive, c'est-à-dire que tout ce que nous fassions au cours de cet enseignement, la façon dont nous le recevons, doit être très positive. Cela vaut également pour celui qui enseigne. Le maître qui enseigne ne doit pas enseigner par désir de devenir célèbre, de rassembler des disciples, par esprit de compétition par rapport à d'autres enseignants. Il doit avoir une attitude, une motivation extrêmement par rapport à d'autres enseignants. Il doit avoir une attitude, une motivation extrêmement pure. C'est vrai, bien sûr, de ceux qui reçoivent ces enseignements, et ils doivent enseigner avec l'idée de se transformer, non pas simplement avec l'idée d'accumuler des connaissances théoriques qu'ils pourront utiliser par la suite, ou même pire, de s'entraîner au dharma afin d'utiliser comme un moyen pour nuire à autrui. Il faut au contraire penser donc que l'essence même du dharma est de se transformer, et donc vers bien sûr un aspect positif. Tout dépend de notre attitude, de notre motivation. Il est important d'engendrer une motivation correcte, pas seulement d'ailleurs pour se transformer nous-mêmes, mais y ajouter la composante essentielle et indispensable de l'altruisme, c'est-à-dire que nous allons nous transformer pour devenir mieux capables d'aider autrui à se transformer. Et donc ainsi, avoir une attitude positive, c'est aussi ce qu'on appelle prendre refuge. Prendre refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le refuge principal, c'est le Dharma. L'enseignement, car c'est lui qui nous permet de nous transformer. Et donc, si nous avons ce désir de nous transformer de façon positive, alors naturellement, nous prenons l'essence du refuge. Encore une fois, il faut y ajouter donc cette composante altruiste, qui est celle du grand véhicule, et c'est dans ce but que nous allons réciter un verset, qui est un verset de prise du refuge, associé à l'engendrement de la pensée d'éveil, c'est-à-dire le vœu altruiste de libérer tous les être. C'est maintenant ma quatrième visite à Pomaya. La première fois que je suis venu, Lama Thubten Yeshe, le fondateur de ce centre, était en vie. Je me rappelle qu'il y avait une tente et qu'il avait beaucoup plu et que c'était bien, bien mouillé à l'intérieur. Depuis ce temps, Lama Thubten Yeshe est mort. Nombreuses années ont passé. Et nous devons réfléchir à comment se sont passées toutes ces années. Certainement, nous avons, à l'évidence, continué à nous nourrir, à nous vêtir, à vivre tous les jours. Donc physiquement, nous avons persévéré jusqu'à maintenant. Mais si l'on est réfléchissant plus intérieurement, que s'est-il passé pendant ces années dans notre esprit? Jusqu'à quel point avons-nous réussi à transformer un peu notre esprit? C'est un bon moment puisque nous prenons conscience brusquement des années qui ont passé de réfléchir à ce qui s'est passé en nous pendant ces années. Avons-nous, si nous regardons sur ces années, des raisons de nous réjouir de ce que nous avons accompli, de la façon dont nous nous sommes transformés? Ou au contraire, avons-nous rencontré toutes sortes de difficultés? Avons-nous été secoués, perturbés, rendus confus par toutes sortes de poisons, de toxines mentales qui ont affligé notre esprit? Ou simplement, est-ce que nous avons laissé passer le temps sans même nous en rendre compte? Quand on songe ainsi à un événement qui s'est produit il y a de nombreuses années, c'est une bonne façon d'essayer de faire une sorte de bilan, de voir qu'est-ce qui s'est passé en notre esprit, qu'est-ce que nous avons fait de ces quelques années du point de vue de notre évolution personnelle. Le temps, bien sûr, passe, mais comment allons-nous utiliser ce temps qui passe? Nous pouvons l'utiliser simplement à accumuler des richesses, à gagner de l'argent, à accumuler des biens matériels. Nous pouvons aussi l'utiliser pour réfléchir, essayer de nous transformer nous-mêmes. Donc l'utilisation du temps et la façon d'utiliser le temps est évidemment une chose tout à fait essentielle pour la qualité de notre existence. Je pense qu'il est certain que si nous consacrons entièrement notre temps à accumuler des biens matériels, ce n'est pas la façon la plus habile d'utiliser notre temps, car ce n'est pas ça qui va nécessairement, loin de là, nous apporter un sentiment de plénitude et de bonheur. Il ne s'agit pas non plus de ne consacrer aucun temps à ce qui nous est nécessaire pour vivre. Bien sûr, on ne peut pas faire ça, mais au moins consacrer suffisamment de temps pour une transformation personnelle. Mais il y a une chose qui est certaine de toute façon, c'est que nous soyons religieux, que nous ne soyons pas religieux, tout être vivant, et pas seulement les êtres humains, mais les animaux également bien sûr, tous sans exception, souhaitent connaître le bonheur et souhaite éviter la souffrance. Ça, c'est quelque chose qui est absolument commun à tous les êtres animés, tous les êtres vivants. Maintenant, quand on parle de cette quête du bonheur et de cet désir d'échapper à la souffrance, il y a plusieurs sortes de bonheur et de souffrance. Il y a tout d'abord le bien-être physique, la souffrance physique. La souffrance aussi qui est plus généralement, ou le bonheur qui est plus généralement perçu par les perceptions des cinq sens. Ce type de bonheur et de souffrance, je crois qu'en général, on peut dire qu'il est commun, comme je l'ai dit précédemment, à tous les êtres vivants, c'est-à-dire y compris les animaux. Les animaux souffrent ou se sentent bien par leur corps, par les diverses sensations des cinq sens. Maintenant, il y a un autre aspect du bonheur et de la souffrance, c'est celui qui est propre à l'intelligence. Et ça, il est plus particulier, indiscutablement, à l'espèce humaine, car par l'intelligence, les êtres humains peuvent notamment penser à long terme au bonheur et à la souffrance, préparer ce bonheur et éviter la souffrance, non seulement dans l'instant même, par les sensations, mais à long terme. Et donc, ils ont une faculté beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde, d'une part de faire l'expérience de la souffrance et du bonheur mental et aussi de faire en sorte de faire tout ce qu'il faut pour accomplir ce bonheur et pour éviter la souffrance. L'intelligence leur donne un outil donc beaucoup plus puissant dans ce domaine. Et donc cet aspect mental de la souffrance et du bonheur est particulier à l'être humain et c'est lui qui l'a à un degré extrême. Cette intelligence est aussi une arme à double tranchant. En effet, le fait de pouvoir ainsi réfléchir, d'avoir toutes sortes de pensées, est effectivement ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus vaste du bonheur. Mais aussi, le simple fait que nous avons cet immense flot de pensées peut aussi être une cause de trouble. Ces pensées mêmes peuvent nous causer du trouble, de la souffrance, du tourment, de la confusion. Et donc, dépendant de la façon dont nous utilisons cet instrument très puissant de l'intelligence et de la pensée, pouvons d'un côté accomplir une grande plénitude, un grand bonheur, mais aussi fabriquer des souffrances. 가서 가다 미 가서 오래 남주 cet aspect extraordinaire de quelle l'intelligence humaine par rapport aux autres espèces vivantes, si nous l'utilisons en vue d'accomplir notre bien-être et de celui des autres, si nous l'utilisons de façon constructive, positive, alors à ce moment-là, elle prend tout son sens, cette intelligence vraiment. Ça vaut la peine que nous ayons cette faculté d'intelligence. Mais si nous intelligeons toute la puissance de l'intelligence pour nous détruire, pour faire du tort à autrui, à ce moment-là, c'est une gestion extrêmement regrettable et très triste du potentiel extraordinaire de l'intelligence humaine. Maintenant, pour comparer à nouveau ces degrés d'intelligence entre les êtres et les répercussions de cette intelligence, si nous regardons les trois poisons principaux, les trois toxines mentales principales que sont le désir, la haine et l'ignorance, qui affectent tous les êtres vivants. Bien sûr, nous partageons ces poisons mentaux avec les animaux. Ils ont aussi de l'animosité, ils ont aussi du désir, ils ont aussi certainement de l'ignorance, tout comme nous. Donc, pour ce qui est d'avoir ces facteurs mentaux obscurcissants, ce qu'on appelle les kleshas, nous les avons en commun avec les animaux et tous les êtres vivants. Mais la différence, c'est la façon dont ces poisons mentaux peuvent être magnifiés aussi bien dans leurs effets négatifs que dans la faculté aussi de nous en libérer. Et ça, c'est très clair que cette faculté de multiplier la force de ces poisons mentaux est aussi liée intrinsèquement à la force de l'intelligence. Et on peut le voir que lorsque cette intelligence est utilisée pour renforcer ces poisons mentaux, cela peut donner des résultats tout à fait tragiques. Un des exemples récents est bien sûr l'attentat du 11 septembre. Il faut se rendre compte de ce que c'était si on y réfléchit. C'était des avions civils, donc avec des gens tout à fait ordinaires qui avaient des préoccupations comme nous avons tous, qui n'avaient aucune attitude particulière négative vis-à-vis de qui que ce soit. Ce sont tout à fait des gens tout à fait normaux. Et voilà des avions qui étaient pleins de carburant, car ils devaient traverser les États-Unis d'est en ouest, et qui ont été utilisés comme des bombes humaines avec des innocents qui n'avaient strictement rien à voir avec les raisons de cet attentat. Donc là, on voit qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de l'intelligence, car ces choses-là ont été planifiées méticuleusement, longtemps à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé comme ça du jour au lendemain, et donc avec beaucoup d'intelligence. Et donc là, on voit un exemple extrême de l'utilisation méthodique poussée de l'intelligence pour créer de la souffrance à autrui. Et donc là, on voit avec beaucoup de clarté cet effet à double tranchant, ce potentiel aussi bien pour construire que pour détruire, qu'à l'intelligence. Donc en bref, l'intelligence humaine a un potentiel presque illimité, un potentiel illimité de faire le bien et aussi un potentiel limité de faire le mal, ce qui est différent des animaux. Bien sûr, les animaux n'auraient pas pu concevoir de tels attentats. Également, si l'on réfléchit à d'autres façons dont l'intelligence peut soit construire, soit détruire notre bonheur, l'on voit à quel point l'intelligence, avec sa faculté de mémoire, peut être également une source de trouble ou de bien-être. On voit comment le fait unique à l'intelligence humaine de pouvoir se rappeler le passé, d'avoir aussi d'avoir des traces qui nous permettent de connaître l'histoire en remontant à plusieurs milliers d'années. Tout cela n'est évidemment pas présent chez les animaux, mais on peut voir aussi que cette faculté de mémoire et d'enregistrer le passé peut aussi être la cause de développement de ces poisons mentaux. En réfléchissant à l'histoire du passé, à tout ce qui s'est produit dans cette histoire, bien souvent, on en éprouve du ressentiment, des haines pour des choses qui se sont passées d'un point de vue historique, ou au contraire, la réflexion à notre propre passé ou à celui de l'histoire peut engendrer des attachements, des désirs, et donc contribuer à renforcer de nouveau ces poisons mentaux. De même, poisson pour le présent, c'est pareil pour le futur. Penser au futur beaucoup plus que ne le font les animaux peut aussi être une source d'appréhension, d'espoir, d'attachement, d'orgueil, de sentiment de jalousie, de compétition, et donc de tourments intérieurs. Maintenant, comment remédier à cela? On voit bien que simplement développer les conditions, le confort matériel, par la technologie, par toutes sortes de choses, ne suffit pas à dissiper ces poisons mentaux qui sont suscités par les pensées du passé ou les préoccupations du futur. On voit bien que nombre de gens qui disposent de toutes les facilités matérielles, du confort, de la richesse, peuvent être extrêmement déprimés en même temps. Donc si le simple fait de rassembler toutes les conditions extérieures favorables suffisait à dissiper la souffrance, tous les gens qui ont ces conditions favorables devraient être heureux, ce qui n'est pas le cas. On voit en revanche que si quelqu'un a un tempérament joyeux et serein, même si cette personne fait face à de grandes difficultés du point de vue de la nourriture, du vêtement, du logis, ces personnes gardent courage, ces personnes gardent leur état d'esprit heureux. On peut voir également une nouvelle fois comment notre disposition mentale prédomine et éclipse les conditions extérieures dans le cas, par exemple, d'un héros qui a, au risque de sa vie, accompli une action pour sauver d'autres êtres, par exemple, et qui, dans le cours de cette action, s'est trouvé blessé physiquement. Donc, il peut avoir une grande souffrance physique. Mais si, en même temps, être parfaitement heureux et serein parce qu'il a accompli son but, il a sauvé une vie, par exemple, et cette satisfaction intense d'avoir accompli son but est plus forte que la souffrance physique. On pourrait dire qu'il ne ressent presque plus ses blessures, tant sa satisfaction d'avoir accompli son but est puissante. Donc, à nouveau, on voit à quel point l'intelligence peut éclipser et dominer les conditions extérieures et même la souffrance physique. Donc il est clair qu'on ne peut pas attendre d'un simple développement du confort extérieur, du confort matériel. Très difficile de penser que cela va éliminer toutes nos souffrances mentales. Donc bien sûr, il est nécessaire de contribuer au développement des conditions extérieures, de l'amélioration de ces conditions, mais en même temps, il est essentiel de développer notre faculté intérieure d'acquérir le bonheur. Également, les conditions de ce milieu extérieur ont considérablement changé et renforcent le besoin de développer notre intelligence et de trouver le bien-être par l'intelligence. En effet, si on change au temps lointain, il n'y avait certainement pas de problème d'un manque de ressources. Lorsque le monde était très peu peuplé, eh bien, il y avait soit des gens qui se consacraient à la cueillette, qui étaient des nomades, qui se déplaçaient, qui vivaient de chasse et de cueillette, d'autres qui ont commencé à cultiver les terres, mais il n'était pas concevable que ces personnes manquent de ressources naturelles ou qu'elles viennent à s'épuiser. Mais également, il n'était pas concevable qu'ils ne trouvent pas d'eau potable, de quoi survivre, etc. Et donc, ils pouvaient vivre chacun un peu dans leur coin, sans trop s'inquiéter de ce que faisaient les autres, car ce que faisaient les autres n'avait finalement que très peu d'incidence sur la qualité de leur vie. Mais avec l'expansion de la race humaine et la population qui est devenue extrêmement nombreuse, ce n'est plus du tout le cas. On voit bien maintenant à quel point l'influence sur la planète, la présence d'un très grand nombre d'êtres humains, s'est traduite par des répercussions extrêmement graves et importantes. Nous en sommes maintenant à nous demander si nous aurons suffisamment de ressources naturelles comme le pétrole. Et même pour l'eau, c'est assez incroyable que nous en sommes venus à un point où d'abord il y a beaucoup d'eau qui ont été polluées, l'influence humaine. Donc il faut faire la distinction entre les eaux qui sont potables et celles qui ne le sont pas. Et bien souvent maintenant que l'eau potable, simplement pour boire, il y a beaucoup d'êtres, d'hommes et de femmes qui sont privés d'un accès à l'eau potable. Donc dans une seule situation, il est bien évident que chacun ne peut pas rester tout simplement de son côté en se disant « bon, moi du moment que je me débrouille, ça n'a pas d'importance ». Pourquoi ? Parce que notre sort est devenu extrêmement interdépendant dans tout ce que nous faisons. à savoir que si l'environnement, la planète, les autres êtres souffrent, eh bien, c'est indiscutablement une cause de souffrance pour nous aussi. Si nous savons protéger l'environnement, nous préoccuper du sort d'autrui, à ce moment-là, nous-mêmes, nous en sommes bénéficiaires. Nous sommes sur cette planète, donc ce qui advient à cette planète nous concerne directement. Notre bonheur et notre souffrance sont étroitement liés à ceux des autres. Et donc, dans une telle situation nouvelle, on voit bien que si chaque groupe ne change qu'à ses propres intérêts et que le groupe d'à côté fait de même, à ce moment-là, cela ne peut pas fonctionner, car il n'y a plus de gagnants et de perdants. Si nous causons du tort à l'environnement en général, par exemple, eh bien, c'est du tort à nous-mêmes également et à tout le monde. Donc, on ne peut plus ignorer ça. Et on voit ça, par exemple, dans le cas du réchauffement de la planète. C'était quelque chose qui a été fabriqué à la suite du développement de la race humaine et de l'intelligence humaine. Donc, dans ce contexte, il est extrêmement clair que le fait d'être concerné par le sort d'autrui, que ce soit pour leurs conditions de tous les jours ou par l'influence de changements dans l'environnement, est essentiel. Et être concerné par le sort d'autrui, ça veut dire développer un sentiment d'altruisme, d'amour, de compassion, de tendresse à l'égard d'autrui, et de sentir que les souffrances d'autrui nous concernent, que leur bonheur nous concerne, et donc ne pas simplement rester dans un univers extrêmement fermé, très étroit, en essayant d'accomplir les tâches qui nous incombent, en se disant du moment, moi ça c'est mon rôle, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce qui me concerne, mais au contraire de se dire non, de briser la cage de ce petit monde étroit et de se dire de façon beaucoup plus globale, en disant si il y a un bien-être accru pour l'ensemble de l'humanité, moi-même bien sûr j'en profiterai également, et donc voir de façon beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. C'est pour ça que partout où je vais, j'essaie de promouvoir cette prise de conscience de la nécessité de développer les valeurs humaines, car ce sont ces valeurs humaines qui représentent à quel point nous sommes concernés par le sort d'autrui. Et c'est aussi du fait que le monde est tellement interdépendant, ce que j'appelle le sens d'une responsabilité globale, d'une responsabilité universelle. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Réfléchissez-y. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne suffit pas de se préoccuper du développement matériel. Ça, nous le faisons par la technique, la science, etc. Mais il est important qu'en même temps, il y ait un effort très soutenu afin de développer les qualités humaines, en même temps que ce développement technique et matériel. Ça, c'est essentiel pour construire le futur. Maintenant, lorsque nous parlons de transformation intérieure et transformation de notre esprit, et c'est bien par ça qu'il faut comprendre le sens du mot spiritualité. Eh bien, cette approche n'est pas confinée à une approche plus religieuse, n'implique pas nécessairement une croyance religieuse. En effet, sur quelle base est-ce que nous allons entreprendre cette transformation spirituelle ? C'est en réfléchissant à ce qui nous arrive, en réfléchissant à ce qui nous est arrivé dans le passé, à ce qui est arrivé à de très nombreux autres êtres dans le passé, en réfléchissant et en tirant les leçons de ce qui est arrivé en termes de bonheur et de souffrance à nous-mêmes et à tous ces êtres, et en analysant les causes de ce bonheur et de cette souffrance, en voyant que certains facteurs mentaux destructeurs, négatifs, comme la haine, en examinant de quelle façon est-ce que ces facteurs mentaux ont causé tant de souffrance à nous-mêmes et à autrui, en voyant que si l'on peut éviter ces facteurs mentaux destructeurs, eh bien, on évitera par là même de grandes souffrances, en nous rendant compte que si nous ne sommes pas simplement concernés par nous-mêmes, mais par le bien d'autrui et par l'ensemble de la condition qui vont régir notre bonheur et notre souffrance, eh bien, c'est une façon beaucoup plus intelligente de peu à peu construire notre bien-être et de celui des autres, en nous rendant compte également qu'il faut distinguer le bien-être et le mal-être à court terme mais à long terme. Donc cette faculté de réfléchir à ce qui peut paraître plaisant à court terme, mais ce qui va apporter de grands inconvénients ou des conséquences extrêmement fâcheuses à long terme. Et donc ça, c'est le propre de l'intelligence humaine. Mais cette réflexion, à quoi est-ce que ça va mener? Ça va mener à la notion de discipline personnelle. La discipline, c'est en effet, en distinguant le court et le long terme, de se dire, voilà, si quelque chose qui semble agréable à court terme va conduire à une catastrophe à long terme, la discipline, c'est de restreindre nos paroles, nos pensées, nos activités qui sembleraient nous conduire spontanément à une action à court terme, en se disant non, parce qu'à long terme, cela va causer pour soi-même et pour autrui de grandes souffrances. Donc c'est ça qu'on appelle la discipline. C'est simplement reconnaître ce qu'il convient d'accomplir et ce qu'il convient d'éviter à long terme afin d'assurer un véritable bien-être durable pour soi-même et pour autrui. Donc la discipline, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou qui nous a été imposé par les autres. On ne peut d'ailleurs imposer qu'une discipline ou des contraintes sur le corps et la parole. Seul l'esprit lui-même peut décider de changer. On ne peut pas discipliner de l'extérieur l'esprit de quelqu'un d'autre. Et donc le sens de la discipline, c'est de reconnaître ce qui est à accomplir pour tenir un bonheur à long terme. En ce qui concerne la transformation de l'esprit, il y a une autre façon, bien sûr, qui est celle d'utiliser un moyen religieux pour transformer notre esprit. En ce qui concerne donc les gens qui ont une adhésion religieuse, il y en a deux types principaux de religions. Celles qui croient en un Dieu créateur et qui ont le principal aspect de leur religion est lié à cette notion d'un Dieu créateur. Mais il y a un autre groupe de religions qui n'ont pas cette notion d'un Dieu créateur, mais qui considèrent que ce qui nous arrive en termes de bonheur et de souffrance est simplement dû au résultat de nos actions, ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire le résultat de nos motivations et de nos actes. Il y a donc ces deux principales catégories de croyances religieuses, celles qui croient en un créateur et celles qui pensent que ce qui nous arrive est dû simplement au résultat de nos actes. Bon, pour ceux qui croient donc à un Dieu créateur, il y a toute une série de grandes religions et elles ont chacune leurs particularités qui sont liées à la croyance à l'existence de ce créateur, parce que ce créateur a tout fait et donc ce monde qu'a créé ce créateur de la part des créatures. Si elles manifestent, il y a donc un moyen au travers de cette croyance d'acquérir soi-même un bien-être et une félicité. Et particulièrement en respectant le Créateur. Et respectant ce Créateur implique aussi que l'on respecte les autres êtres, puisqu'elles sont comme nous, l'œuvre de ce Créateur. Et donc, on voit bien que de cette conception naît l'amour, l'altruisme, le sens de savoir se satisfaire de ce qu'on a, la tolérance, la discipline personnelle. Et donc, on voit bien que cela naît du simple fait de respecter nos Créateurs. Par exemple, la patience, la tolérance à l'égard d'un ennemi. Et si l'on voit cet ennemi comme étant une image de Dieu, celui qui nous fait du tort ou celui qu'a priori nous, quelqu'un que nous n'aimons pas particulièrement, si nous essayons de transformer notre attitude dans la perception de cette personne en pensant qu'il est une créature comme nous et que c'est une image de Dieu, cela change notre perception. C'est une notion qui est venue lorsque nous avons discuté avec des instituteurs du Ladakh, des professeurs chrétiens. Ils disaient que quand ils voyaient un ennemi, ils pensaient tout de suite que cette personne était une image de Dieu et que cela était très utile pour faire que cette haine se dissipe. Et donc, quand ils avaient appris ça à leurs élèves, eh bien, quand ces jeunes enfants avaient brusquement un sentiment de colère ou de ressentiment à l'égard de quelqu'un d'autre, eh bien, que de penser que c'était une image de Dieu, alors quand ils leur avaient enseigné ça, ils disaient que ça avait apporté de grands bienfaits et qu'il y avait beaucoup moins de disputes dans l'école. Et donc, ce genre de croyance en un créateur, certainement, nous aide aussi à supporter de grandes souffrances et de grands malheurs, à développer notre force d'âme, notre endurance, notre patience. Et donc, il est évident qu'on peut en tirer de très grands bienfaits d'une telle croyance. Cet exemple que ce saint est donné à propos de ses enseignants qui disaient de considérer l'autre, l'ennemi, comme l'image de Dieu, c'était en Israël que ça s'est passé. Maintenant, pour ceux qui n'envisagent pas cette notion d'un créateur et qui pensent que ce qui nous advient vient de la façon dont nous réussissons ou non à maîtriser, à transformer notre esprit, transformer nos actions, et de penser qu'il y a des conséquences à nos actions, que si nous faisons quelque chose qui est bienfaisant pour autrui, cela va se traduire par du bonheur pour soi-même et pour autrui, que si nous faisons quelque chose qui est nuisible à autrui, cela va se traduire par de la souffrance pour soi-même et autrui, c'est ce qu'on appelle le karma, l'enseignement des causes et effets, et qui donc vont ajuster leur manière de penser, de parler et d'agir sur ces lois de causes et effets du karma. À ce moment-là, naturellement, on espère bien sûr que nous allons nous être séparés de la souffrance et acquérir le bonheur, et que donc on va reconnaître les causes de ce bonheur, qui est de faire le bien d'autrui principalement, d'éviter les cause de la souffrance qui est de causer du tort à autrui. Donc de nouveau, il y a là une façon différente qui ne fait pas appel à un créateur, mais qui simplement fait appel à la compréhension des lois de cause à effet pour réaliser cette aspiration au bonheur et ce désir d'éviter la souffrance en y incluant cette composante et cette compréhension du bonheur et de la souffrance d'autrui. Donc de cette façon, il existe bien sûr toutes sortes de différentes religions, comme je viens de le dire, des visions philosophiques très différentes, des conceptions métaphysiques différentes. Et même au sein même de l'enseignement du bouddhisme, il y a toutes sortes de vues philosophiques qui sont parfois différentes et en conflit l'une avec l'autre, qui donnent lieu à des débats. Donc on trouve toutes sortes d'exposés sur les vues philosophiques. Mais le but de toutes ces vues philosophiques, c'est de diverses façons de transformer notre esprit, de maîtriser notre esprit. Donc ça, c'est commun non seulement à tous les aspects du bouddhisme, mais à toutes les grandes religions du monde. Et donc c'est ça qui donne lieu au développement indispensable et essentiel de la bonté altruisme, de la compassion, de savoir de se contenter de ce que l'on est, de la tolérance, de l'honnêteté, de la discipline personnelle, de la maîtrise de soi. Tout ça est naturellement lié à la pratique de toutes les grandes traditions spirituelles, de toutes les grandes religions. Donc la racine même du bonheur ou du malheur, c'est bien ce qui se passe dans notre esprit. Si notre esprit trouve une paix intérieure ou si notre esprit, au contraire, est troublé. Donc ça, c'est quelque chose, un élément essentiel. Donc dans toutes les grandes traditions religieuses, indépendamment du fait qu'elles ont des vues philosophiques très diverses et très différentes, mais le but à accomplir, c'est bien d'apporter en notre esprit, de développer, de faire fleurir en nous ces qualités humaines et cette faculté de connaissance et de maîtrise de notre esprit. Donc lorsque le Bouddha a expliqué son enseignement, il a bien dit que la racine même du bien-être des êtres humains est d'avoir un esprit à la fois pacifié et un esprit qui est maîtrisé, donc une paix intérieure. Le Bouddha a bien dit que c'était ça la source même du bonheur humain. Donc en ce qui concerne les méthodes, même le Bouddha a exprimé des enseignements très différents parfois. Et la raison en est, c'est que les êtres ont des natures différentes. Car on ne peut pas imposer un type d'enseignement unique aux êtres humains. Il faut qu'un enseignement soit utile, soit approprié, soit adapté aux facultés des êtres humains. On ne peut pas leur imposer un chemin unique. Il faut que cet enseignement leur soit bienfaisant. Par exemple, si l'on pense à la vérité absolue, la notion de la vacuité. Donc, l'enseignement sur la nature ultime, bien sûr, c'est l'enseignement ultime auquel on veut arriver en tant que compréhension, mais les méthodes et les façons d'arriver à cet enseignement ultime ou à cette compréhension ultime varient considérablement suivant les dispositions et la nature des êtres humains. Et il faut que ces méthodes et cette façon d'enseigner soient adaptées, répondent aux aspirations et aux natures différentes de cet être humain. Donc, les différences entre les différentes traditions spirituelles, les grandes religions, elles sont nécessaires parce qu'elles correspondent à des natures différentes des êtres. Et donc, sans cela, eh bien, il y aura un très grand nombre d'êtres qui seraient exclus de cette quête de transformation spirituelle. Donc, c'est une conséquence naturelle des dispositions variées des êtres qu'il y ait des vues philosophiques différentes, des religions différentes, mais sans oublier que leur but unique et commun est celui de nous transformer, de devenir de meilleurs êtres humains, de développer des qualités positives en nous-mêmes. Donc ce but-là, il est commun. Et dans ce sens, il faut avoir une admiration, se réjouir de l'existence de toutes ces religions différentes et de se dire qu'elles sont utiles, elles sont nécessaires. Par exemple, il y a quelques jours, je suis allé à Fatima, en pèlerinage au Portugal. Et donc à Fatima, il y a eu au début du XXe siècle, dans les années 1910 ou quelque chose, il y a eu trois bergères qui ont eu une vision de la Vierge. C'est un endroit où je suis allé il y a quelques jours. Il y a une statue de la Vierge qui n'est pas très grande, mais qui est tout à fait spéciale. J'avais un peu froid, j'avais aussi un panari au doigt, je cache ce doigt sous mon écharpe, mais j'étais avec des prêtres et nous sommes restés quelques instants en silence, en méditation. Après cela, j'ai regardé à nouveau le visage de cette statue de la Vierge et il y avait quelque chose de tout à fait extraordinaire, une grande beauté, une grande douceur. Donc en bref, je pense que, je le dis très souvent, la chrétienté, dans le passé, apportait un bien immense, une force d'âme, une force vers la paix, la compassion à des milliards d'êtres. Donc de la même façon, la plupart des grandes religions ont considérablement aidé un grand nombre d'êtres et le feront également dans le futur. Donc je pense qu'il est essentiel qu'en dépit des différences philosophiques et autres de ces religions, qu'il faut comprendre, leur raison d'être est justifiée par le fait qu'elles aident les êtres à se transformer. Ça ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs que toutes les formes de tradition religieuse conduisent nécessairement à l'omniscience, à ce qu'on appelle l'éveil ou l'illumination, mais qu'indiscutablement, elles ont un potentiel énorme de faire le bien et de nous aider à nous transformer.
Non, yeah.
En ce qui concerne l'enseignement du Bouddha, qui s'est développé, donc, est né en Inde, il y a près de 1500 ans, pas loin de son troisième millénaire, donc, de cet enseignement du Bouddha. En sanskrit, ce qu'on appelle l'enseignement du Bouddha, c'est le dharma. Et le sens de dharma, c'est quelque chose qui nous protège des errances du samsara, qui nous protège des fruits indésirables, des actions négatives, qui nous retient de nous engager dans ce qui va créer notre propre malheur et celui d'autrui. Donc c'est le sens du mot dharma, quelque chose qui protège, quelque chose qui nous tient. En tibétain, ce mot dharma a été traduit par les grands lotsawa, les traducteurs, tchö. Tchö, ça veut dire quelque chose qui va amender, qui va transformer, qui va corriger. Corriger quoi? C'est corriger ou amender tous les facteurs mentaux qui sont souffres de souffrance, c'est-à-dire toutes les toxines mentales dont nous avons parlé, et donc de les corriger, de les transformer. Concernant l'enseignement du Bouddha, à nouveau, son point particulier, en quoi se distingue-t-il? Disons que la caractéristique spécifique de l'enseignement du Bouddha, c'est sans doute l'interdépendance, c'est-à-dire que les choses prennent leur origine en dépendance d'autres choses. Donc les phénomènes sont interdépendants, interdépendants sur le plan des causes et des conditions qui provoquent l'apparition, la transformation de ces phénomènes. Donc ces phénomènes ne sont pas nés sans cause, ils ne sont pas nés d'une cause immuable, ils ne sont pas nés de volonté d'un créateur, ils ne sont pas nés du néant. Donc ça correspond aussi à des différentes vues philosophiques qu'on trouvait en Inde, qui pensaient d'une part que les choses étaient sans cause, elles venaient simplement comme ça, c'est la nature des choses. Et il y avait aussi en Inde une vue philosophique qui disait qu'il y avait un créateur éternel et immuable qui était la cause de ces phénomènes. Donc il parlait de Ishvara, de Indra comme étant un créateur qui avait décidé de créer le monde. Donc selon le bouddhisme, on n'envisage pas une telle cause première ou une entité créatrice qui a une volonté de créer le monde, mais on pense que les phénomènes simplement surviennent par les relations de cause à effet et qu'ils surviennent en dépendance d'autres phénomènes. Donc ils ne peuvent pas être leur propre cause et qu'ils ne sont pas non plus sans cause. Donc tout a une cause, tout naît d'un suite d'un nombre incalculable de causes et de conditions, et du fait que tout vient en interdépendance, il ne peut pas exister également d'entités qui existent de façon autonome, de façon permanente et qui ne dépendent de rien. Cela inclut toutes les entités concevables dans ce domaine, y compris la notion d'un soi, par exemple d'un atman selon la tradition hindoue, ou d'une identité personnelle, ou d'une identité que l'on trouverait dans les phénomènes et qui serait autonome, éternelle et immuable. Donc tout cela est exclu par le fait que tous les phénomènes sont impermanents et naissent par le jeu interdépendant d'un nombre infini de causes et de conditions. Lorsque l'on parle donc d'une origine en dépendance, de l'interdépendance, si l'on voit ça du point de vue des causes et des conditions qui vont être bienfaisantes pour nous-mêmes et pour autrui, et d'autres qui vont être nuisibles à soi-même et autrui, on voit bien que ces événements de bonheur et de souffrance sont liés à des causes et des conditions. Donc si l'on essaie d'analyser les causes et les conditions de notre malheur ou de celui d'autrui, on voit que tout ce qui est accompli avec une motivation négative, avec l'idée de nuire à autrui, va engendrer de la souffrance pour soi-même, pour autrui, et en revanche, que le bonheur également ne naît pas par hasard, mais il naît d'un assemblage de différentes causes et de conditions, et que donc si c'est le cas, ça ne tient qu'à nous finalement de rassembler, de multiplier, d'engendrer les causes et ces conditions du bonheur, et de prévenir, d'empêcher, de neutraliser ou de détruire les causes et les conditions qui vont conduire au malheur et à la souffrance pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Donc je dis fréquemment que si l'on veut résumer l'enseignement du bouddhisme en deux aspects, c'est que la vue est celle de l'interdépendance et l'action est celle de la non-violence. Donc on dira que la racine même de l'enseignement du Bouddha est la compassion. Donc, dépendant de la force de cette compassion, il y a deux aspects à cette compassion. Le premier aspect, le plus faible, est simplement de s'abstenir de causer du tort à autrui. Mais il y a un degré encore plus puissant et plus élevé, c'est de ne pas simplement s'abstenir de faire du tort à autrui, mais c'est d'accomplir le bien d'autrui de façon active. Ça, c'est l'idéal. Mais même si on n'est pas capable d'accomplir de façon vaste le bien d'autrui, tout au moins pour sûr, pour pratiquer le bouddhisme, faut-il s'abstenir de causer du tort à autrui. En essence, toute cette alternance du bonheur et de la souffrance et de toutes les modalités sont indiscutablement dues à des causes et des conditions. Elles ne viennent pas de nulle part. Et de la même façon, si maintenant on veut transformer ces facteurs, si l'on veut améliorer notre esprit, développer des qualités humaines, éliminer la souffrance, il faut analyser les causes qui permettent cette transformation et mettre en œuvre, utiliser les lois de cause à effet pour accomplir cette transformation. Il est important de comprendre la nature même des causes à effet et la nature même de nos actes. Il faut également que notre perception des choses soit en conformité avec la réalité. Il faut savoir comment engendrer et développer les causes du bonheur, comment empêcher le développement des causes de la souffrance et si elles sont développées déjà, comment les réduire et les détruire. Donc pour cette notion d'une voie et d'un fruit, il faut qu'il y ait une base pour cela. Il faut qu'il y ait un fondement, un potentiel de transformation. Et ce potentiel de transformation, il doit être présent dans la réalité. Et pour cela, il faut que notre façon d'essayer d'accomplir le bonheur et d'éviter la souffrance soit en conformité avec la réalité. Si nous ne sommes pas en conformité avec la réalité, il n'y a aucune base pour cette transformation. C'est pour ça que si nous avons des vues fausses, des vues erronées concernant la réalité, eh bien, comment pourrions-nous utiliser les causes à effet pour accomplir un résultat qui est celui d'atteindre le bonheur et d'éviter de la souffrance? Car pour obtenir un résultat et pour utiliser les lois de causalité, il faut que la façon dont nous voyons les choses, les méthodes que nous utilisons, soient en conformité avec la réalité. Si notre vue est totalement erronée, ne correspond à rien à la réalité des choses, que nous ne faisons que rêver en quelque sorte, d'imaginer, à ce moment-là, nous n'aurons aucune efficacité dans l'utilisation de la loi de cause à effet. Donc pour utiliser correctement les lois de cause à effet, il faut que nous ayons une perception exacte de la réalité sans déformer cette réalité. Donc on ne peut pas accomplir ce but qui est d'acquérir le bonheur et d'éviter la souffrance si on n'a pas une connaissance valide de la réalité et si nous avons une vue totalement erronée de ce que nous allons essayer de transformer. En bref, une connaissance juste et valide de la nature, des phénomènes et de la réalité est indispensable à une mise en œuvre efficace des lois de cause à effet. Oh yeah, that's it.